Simplement, parce que nous ne sommes pas tous au même niveau dans la Bible ici, je voulais reprendre un peu au départ de la Bible. Si vous prenez la Bible, la première page, et ce qui m'a poussé à faire ça, c'est parce qu'un homme, un papa, ici il y a des enfants, il y en a de plus en plus qui viennent à l'école. Et tous les parents sont des incroyants quasiment, en dehors de Vincent et Véronique. Tous les autres enfants, c'est des familles d'incroyants. Et qui sont dans toutes sortes de choses, hein. Même l'occultisme, la radiesthésie, les énergies positives, et ils amènent leurs enfants. Ils ont quelque chose en eux qui les pousse à mettre les enfants ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, toutes les discussions que j'ai eues avec un des papas, pendant la semaine, là, pendant 3h30, 3h15, J'ai travaillé hier soir, je vais essayer d'en tenir compte. Quand je vois quelqu'un qui est incroyant, qui cherche. Je prends d'abord la Bible au début. Le texte de la Genèse est écrit par Moïse en 1430 avant Jésus. Le texte de la Genèse a été transmis oralement par les Hébreux, depuis Abraham jusqu'à Moïse. Donc 2100 ans, 21 siècles avant Jésus, et en 1430, mis par écrit par Moïse. Pourquoi ? Parce que Moïse est un Hébreu cultivé dans la cour de Pharaon, hyper cultivé, et qui a été chassé de la cour de Pharaon, parce qu'il était Hébreu, quand on a découvert ça, et qu'il avait tué quelqu'un, pour protéger un Hébreu, eh bien, il a dû fuir dans le désert. Et là, il a eu le temps de vivre avec les croyants qu'il a rencontrés, et il a mis par écrit plusieurs livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Peut-être même Job. Hein. 5 livres. Ça devait être un bosseur, parce qu'en même temps qu'il gardait les moutons, en même temps après, il allait en Égypte pour rechercher les Hébreux et les faire les diriger dans le désert. Ça devait être un sacré bosseur. C'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui sert Dieu, Dieu renouvelle ses forces tous les jours. Hein. Alors, il aborde le texte de la création. La création est quelque chose d'extrêmement contesté. Aujourd'hui, je ne traite pas le sujet. Les excès de l'Église catholique ont amené les gens qui aimaient la science à haïr la religion, soi-disant chrétienne, mais c'était la religion catholique. Pour moi, la religion catholique n'est pas chrétienne. J'étais prêtre pourtant, mais je le dis, elle n'est pas chrétienne. Il y a des éléments de christianisme dans l'Église catholique. Et il y a des personnes qui se saisissent de certains éléments de la parole de Dieu et qui sont vraiment des chrétiens. Mais la majorité des catholiques ne sont pas des chrétiens. Comme la majorité des protestants ne sont pas chrétiens. Ils ont la Bible et ils en font un peu ce qu'ils veulent. Ils en tirent ce qu'ils veulent, etc. Donc, le peuple de Dieu est très disséminé. Il n'y a pas beaucoup de personnes nées de nouveau. Pas beaucoup de personnes qui ont vraiment une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais le christianisme, il y a 2,5 milliards de personnes qui se disent chrétiens. Il y en a peut-être 400 millions qui sont réellement attachés à la parole de Dieu et qui essayent de la vivre. De la vivre et d'obéir à la volonté de Dieu. Alors, le premier sujet de contestation à propos de la Bible, c'est la création. Donc, dans la Bible, Dieu a créé tout de rien pendant 7 jours. Yom, c'est période. Cette période. Mais assez rapprochée. Bon, du fait que l'Église catholique a abordé très mal la science, que les religieux détestaient la liberté des hommes. Les religieux voulaient des gens soumis et ignorants. Les gens qui ont aimé la science et la liberté se sont révoltés contre le christianisme. Et ça est resté. C'est ce qu'on appelle en France le laïcisme.
La laïcité.
La laïcité. Et autre part, ça a donné en Allemagne, il y a eu énormément de théologiens libéraux, théologiens protestants, libéraux, qui ont donné toutes sortes de versions de la Bible, d'interprétations. Il y a eu un autre courant en Allemagne, énormément de philosophes et théologiens contestataires. En France, ça s'est glissé autrement. Parce que les gens n'étaient pas dans la Bible, on s'en est pris plutôt radicalement à l'opposition science et foi. Y a-t-il une évolution avec des chaînons manquants que nous connaîtrons un jour? Par exemple, Lucie en Indonésie, ce crâne qu'on a trouvé d'un guenon singe, ancêtre de l'homme. Il y en a aussi en Afrique, en Tanzanie, au Kenya. Y a-t-il une évolution qui nous amène à nous et donc descendons-nous du singe? Je vais tout juste dire ceci. J'ai trouvé un dolmen à 18 ans ici à Gomery, de l'époque d'Abraham. Un dolmen, oui, que je peux aller vous expliquer. J'en ai organisé les fouilles à la demande du musée, avec mon beau-frère qui était futur psychiatre et l'autre futur ingénieur. Et au départ, j'ai commencé tout seul. Quand ce dolmen, après 40 ans, j'avais 58 ans, j'ai demandé au musée de Virton de faire venir des scientifiques, des archéologues, des gens de métier, des gens qui avaient énormément de compétences. On a étudié le dolmen, on a étudié tout ce problème, puis après on se trouvait à table. Alors j'ai fait le petit innocent, j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de Lucie et de l'homme de Spi, ici en Belgique, etc., Néandertal. Ils étaient 14 personnes, tous diplômés, tous athées, payés par l'État ou par des musées. Ils ont tous rigolé, ils m'ont dit, Monsieur Bayeux, on ne croit jamais à ça, nous. C'est des fables, ça. C'est des fables, il n'y a rien de scientifique là-dedans. La science ne se repose pas sur ces histoires-là. Nous avons eu des collègues qui prenaient des tarières, qui faisaient des trous, qui mettaient des mâchoires à des places, qui mettaient des os à des places, qui rebouchaient, puis qui faisaient venir les journalistes, des photos et tout ça. Nous ne marchons pas dans ces combines. S'il n'y avait eu que un ou deux hommes, mais il y en avait tout un autour de la table. Moi, j'ai rien dit. J'ai fait l'ignorant exprès pour voir leur position. Après, je leur ai dit, pour d'autres raisons, je n'y crois pas. Mais eux, du point de vue scientifique, n'y croient pas.
Sur la question de l'évolution.
La question de l'évolution et des chaînons qui se succèdent. Les scientifiques ne considèrent pas cela comme scientifique. C'est un échafaudage à allure scientifique. Et Darwin, qui a créé, qui est au départ de cela, à sa mort, pendant 15 jours, était dans son lit de mort, il a appelé sa secrétaire, il a fait une confession de 35 pages pour renoncer à sa théorie de l'évolution. En disant, il avait fait les études de pasteur pour bien montrer qu'il avait voulu s'opposer à la Bible et la démolir. Il a fait une confession de 35 pages. Je vous dis ça pour que vous sachiez qu'il faut un petit peu ouvrir ses horizons et rechercher ce que veut dire la Bible, sans dire tout de suite, c'est une fable, c'est mythologique, c'est des images, ça ne veut rien dire. Ok ? Je n'en dis pas plus sur ce sujet-là. Il est évident que ce que j'ai dit là, du fait que j'ai rencontré ces archéologues à 58 ans, c'était une joie pour moi parce que j'ai toujours cru que Dieu était assez grand pour faire quelque chose de rien. Il est tout puissant. Alors, Dieu a créé l'homme au chapitre 2. verset 17. Il donne à l'homme toute la création, toute la nature. L'homme, c'est la femme aussi, hein. Vous savez, je vais vous le montrer, au chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, etc. Et qu'est-ce qu'il a mis? Au verset 27, 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme sont créés le même jour, à part égale, le même jour. Ce que beaucoup utilisent à tort, c'est le chapitre suivant, c'est le chapitre 2, où l'homme est endormi, Dieu retire une côte et crée la femme. Quand on fait une analyse littéraire du texte, le premier texte est d'abord principal, l'autre c'est le texte majeur, l'autre c'est un texte ornemental, on appelle ça en écriture hébraïque. Il est explicatif du fonctionnement entre l'homme et la femme. L'homme et la femme créés le même jour ont quelque chose entre eux. C'est que l'homme ne connaît pas la femme. Un, l'image du sommeil, c'est que l'homme ne connaît pas la femme qui est avec lui. Il n'a pas la capacité de la connaître. Deux, c'est que la femme qui est sortie de sa côte, c'est pas la côtelette, c'est pas l'os. C'est son intériorité. Elle fait partie de son intériorité. Elle est appelée à partager intériorité, homme et femme. Intériorité, c'est pas seulement le corps. Comprenez bien que le mariage, c'est d'abord le partage de l'intériorité. Ça remet beaucoup de choses en place dans la sexualité et dans tout le reste, hein, de ce que font nos films, notre télévision, notre éducation, à la noix de coco. C'est dans l'intériorité que la femme est semblable à l'homme. Et la deuxième chose, elle doit rejoindre l'homme, c'est Dieu qui amène la femme vers l'homme. Il y a quelque chose qui pousse la femme à retrouver le semblable, celui qui lui convient, chez un homme. C'est Dieu qui montre à la femme quel est l'homme qui lui convient. Et le grand tort, c'est que beaucoup d'hommes draguent les femmes pour en trouver une. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'a voulu. Quand une femme a une conviction à propos d'un homme, elle va la peser. Elle va la peser et puis, à moins qu'elle soit abîmée dans son fonctionnement moral et spirituel par le passé, ça c'est autre chose, les effets du péché ou de l'éducation, des influences, parfois des désastres qui ont eu. Mais en général, la femme qui a la tête sur les épaules va réfléchir et elle va reconnaître celui-là qui lui convient, avec qui elle peut partager intériorité, corps et âme. Et dans cette femme, c'est l'action de Dieu qui l'amène vers l'homme. Ce n'est pas les hormones, contrairement à toutes nos modes contemporaines. Donc l'image du couple est noble dans la Bible. L'image du couple est supérieure à tout ce que nous voyons dans notre société. Je n'ai pas peur que de dire que la Bible vise haut pour l'homme et la femme, et pour les enfants. Mais il y a un gugus qui s'appelle un archange révolté, qui s'appelle Satan, on lui a donné ce nom après. Ce gugus, Satan, lui, il y a quelque chose de très particulier. Au chapitre 3, verset 1, il vient auprès de la femme et il dit, « Dieu a-t-il bien dit que ?» Il commence à semer le doute dans le cœur de la femme. Pourquoi ? Bon, moi, je ne nie pas, je pense que la femme est sensible, qu'elle est à l'écoute de tout. Hein? Moi, je suis très observateur. Je circule en voiture et tout ça. Je regarde. Il y a un homme que je le regarde promener à vélo ou à pied. Il ne se retourne pas pour moi. Quand je regarde une femme, et qu'elle est sur le trottoir avec son chien, son téléphone, ou qu'elle a vélo, elle se retourne, elle sent que je la regarde, pas l'homme. Pourquoi? C'est tous des détails comme ça. Moi, j'ai pesé toutes ces choses-là. Tout d'un coup, elle se retourne, on croise les yeux. Pourquoi? La sensibilité de la femme est différente de celle de l'homme. Et c'est des milliers de fois, hein? J'ai fait le test, hein? Je regarde intentionnellement l'homme, rien. Je regarde la femme, 3 fois sur 4, elle se retourne. C'est bizarre, la sensibilité de la femme est bien plus grande que celle de l'homme. Ça, je le crois. Et la perception de la femme à certaines choses est plus grande que celle de l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a aucune qualité, hein? N'est pas me faire dire. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que Satan se tourne vers la femme et qu'il lui propose de remettre en question. Dieu a-t-il bien dit que... Chapitre 3, verset 1. Alors, notre petite église, un jour je vais à Bruxelles, je vous donne un exemple, je vais au Palais Royal, dans le dessus du Palais Royal, un immense escalier, aussi large que la pièce ici, en marbre. Et tout au-dessus, dans les combles, mais magnifiques, tous les pasteurs d'églises protestantes. La famille royale leur prêtait un local à toutes leurs réunions. Pourquoi? Parce que les rois de Belgique sont d'origine allemande et protestants. C'est pas compliqué. Et ils ne sont plus maintenant. Mais enfin, la tradition est restée de leur laisser un certain accueil. Et on est en réunion et je demandais à faire partie de la fédération pour notre église, la fédération des églises. Alors, je me présente et tout ça, je raconte comment j'ai connu Christ et tout. Ils écoutaient tout. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, voilà, vous devez savoir, M. Bayeux, que nous, toutes les églises ici, nous avons la liberté d'interprétation de la parole de Dieu. Expliquez-moi. Ben, chacun de nous peut avoir une interprétation différente de la parole de Dieu. Je n'ai rien dit, je suis rentré, j'ai réfléchi. Ça veut dire que quand toutes ces églises se rencontrent, tous les chrétiens se rencontrent, ils ont tous reçu un enseignement différent, une doctrine différente, et ils ne pensent pas la même chose sur la Bible. Qu'est-ce que Dieu a voulu? C'est l'unité? C'est l'unité ou c'est la division? Qu'est-ce que Dieu a voulu? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Soyez un, comme mon Père et moi sommes un. Père, je te prie qu'il soit un, comme nous sommes un. Il me semble qu'il y a une contradiction dans le christianisme contemporain et celui que Jésus a enseigné et établi. Je me suis dit, si les membres de notre église vont à des réunions inter-églises, ils vont tous revenir des trucs dans la tête, ils peuvent y aller. Je n'ai jamais empêché personne de notre église d'aller voir autre part. Mais ils vont y aller, ils vont discuter, ils vont prendre des livres, ils vont entendre. Et puis, on va être ici, tous ensemble, complètement. On ne fera pas une famille. On ne fera pas une famille. On fera une anarchie démocratique chrétienne. La cacophonie théologique chrétienne. Alors, Satan a bien réussi, parce que je réfléchissais la nuit, la seule idée qui m'est venue, c'est la mise en doute de l'autorité de la parole de Dieu. Dans une telle congrégation de pasteurs et d'églises, c'est que la parole de Dieu n'a plus d'autorité. Chacun a autorité sur la parole et en tire le sens qu'il veut. Donc quand un chrétien se met devant sa Bible, il est en train de dire, est-ce que Dieu a bien dit ça? Est-ce que c'est ça que je dois croire? Ou est-ce que c'est l'autre qui a raison? Dieu a-t-il bien dit que? Et dans la... je priais, je ne voulais pas aller dormir sans avoir réglé le problème. Je suis tombé sur ce verset, Dieu a-t-il réellement dit que ? J'ai compris, Satan met la pagaille dans les églises parce que la pensée de Dieu n'est plus connue. C'est la pensée des hommes qui dit ce qu'est la pensée de Dieu. Ça n'est pas, normalement c'est pas ça. Prenez la première aux Corinthiens. La première aux Corinthiens, c'est, voilà ce que Paul dit. Pardon, Mylène. Première aux Corinthiens, chapitre 2. Je baisse parce que j'ai de la buée, je ne sais pas lire. Verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La révélation de l'évangile, hein, la révélation de la parole de Dieu. Ça ne monte pas par le cœur de l'homme, ça ne monte pas par des choses du cœur ou de l'oreille, c'est donc pas déductif des expériences humaines. Ce n'est pas donc déductif, même si on est pasteur, même si on est des églises, ce n'est pas déductif. Ce n'est pas inductif de notre expérience aussi. Ça vient d'où ? Regardez bien, Mylène. Dieu nous les a révélés par l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint sent tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? Hein ? Pensez aux psychologues, ils connaissent bien la ritournelle des consciences. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, chez le chrétien, il y a quelque chose qui se produit pour qu'il ne suive plus ses pensées, sa culture, sa famille, ses églises. Il doit avoir une conduction spirituelle par l'Esprit Saint, par Dieu. Il doit avoir une direction de Dieu dans sa pensée, ce qui n'est pas humain. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce, c'est-à-dire de manière gratuite, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Voilà la chute spirituelle d'Adam et Ève. À partir du moment où ils mettent en question la révélation que Dieu donne dans le cœur, l'autorité de l'action de Dieu sur la conscience du croyant, à partir du moment où Adam et Ève remettent ça en question, tous les descendants la remettent aussi en question. Donc les églises aussi, si elles ne reviennent pas en marche arrière, si elles ne cherchent pas la nouvelle naissance, si elles ne cherchent pas l'autorité du Saint-Esprit de la parole, elles sont comme Adam et Ève, elles sont conduites. Et regardez, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Nous sommes donc, depuis la séduction que Satan a donnée à Adam et Ève, dans le règne animal, c'est-à-dire sans une activité hautement supérieure qui est celle de l'Esprit Saint. Car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Imaginez qu'à cette réunion à Bruxelles, dans cette belle salle, l'apôtre Paul arrive, ou l'apôtre Pierre, c'est la pagaille directe. Directe. Parce qu'ils se lèvent et ils disent, vous n'avez pas la pensée de Christ. Avec ce que je viens d'entendre là. Je suis rentré, et moi j'ai fait une lettre très gentille en disant « Je ne participerai pas à votre fédération. Nous resterons une petite église. » Ils avaient tout le fric pour refaire la maison de prière. Elle fonctionnerait déjà depuis 15 ans. On aurait du monde dedans, mais où serait l'Esprit Saint ? Des belles pierres, des beaux cultes, des beaux chants, où serait l'Esprit Saint ? j'aurais dû accepter cette idée que tout le monde interprète la parole de Dieu comme il le veut et que ça vient de l'homme. J'ai dit non, je ne renonce pas à la parole de Dieu, je ne peux pas participer à votre fédération d'église. J'en ai trouvé en France, j'ai des très bons amis en France, j'en ai connu autre part, aux États-Unis. Mais, attention à la séduction. Et donc, quand vous lisez cela dans 1 Corinthiens, vous allez aussi dans le chapitre 15, et vous avez Paul, qui est subtil, qui est super intelligent, et il revient sur le sujet. 1 Corinthiens 15. Verset 45. Il est écrit, le premier homme Adam et Ève aussi, parce que c'est Ish, Isha. Hein? Dans l'hébreu, Ish, Isha, ça veut dire l'humain, l'humaine. Hein? Donc ils sont égaux. Humain, humaine, création de Dieu. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, Nefesh. Il a un esprit, il fonctionne, il réfléchit, mais c'est pas pour ça qu'il a le Saint-Esprit. Pour ça, il faut attendre que Christ soit mort à la croix pour le recevoir. Alors, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, le deuxième, c'est le Christ. Le premier Adam n'a pas résisté aux tentations de Satan. Le deuxième, dans le désert, a résisté parce qu'il avait la puissance du Saint-Esprit en lui. C'est le dernier Adam, c'est Christ. Alors, nous concernant, verset 46, « Ce qui est spirituel n'est pas le premier. » Ça, c'est pour nous. Quand nous naissons papa et maman, quand nous grandissons dans une église, peu importe, quelle que soit l'église, je l'ai bien dit, même évangélique, quelqu'un qui est né dans une église, il est comme ça. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. C'est-à-dire, comme Adam et Ève, sans l'Esprit Saint. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ah, et comment il vient? Comment ce qui est spirituel vient ensuite? Le premier homme tiré de la terre, donc c'est tiré de la terre, c'est Adam, l'argile, l'argileux, c'est Adam, la femme c'est Adama, l'argileuse. Adam, Adama, hein, en hébreu. Et donc pratiquement, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Donc nous avons une mission. Nés de la terre, nous devons naître du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est Adam, Ève, tels sont tous les humains sur la terre. Même qui portent une croix. Hein. Ils ont un beau clocher, une belle église, ou pas du tout, ça vient même. Hein. Ou une mosquée, ou un Bouddha. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Tel est Christ, venu sur terre, homme et Dieu. Tels sont ceux qui reçoivent son esprit, ils deviennent célestes. La liaison entre le ciel, entre Dieu et l'homme, est rétablie en Christ. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, donc d'Adam et Ève, nous porterons aussi l'image du céleste, donc de Jésus-Christ. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, donc tout ce qui vient de papa et maman, avec la culture, l'éducation, etc., y compris de l'Église, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, les amis? Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, c'est ni le manger ni le boire. Romains 14, 17. C'est paix, justice, amour et joie, la joie tout à l'heure, paix, justice, amour et joie, selon le Saint-Esprit. Et donc, Qu'est-ce que dit Paul ici? Mais vous avez la même chose dans, dans l'évangile de Jean, hein, au chapitre 1, verset 12 hein, à 18. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, donc l'humain, et la tradition humaine, même la meilleure, ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Nous avons été corrompus par la séduction de Satan. Nous avons cru Satan. Notre père et notre mère ont cru Satan. Ils ont mis en doute l'autorité de la révélation qu'ils avaient dans l'âme. Le fil qui nous reliait a été coupé. Il faut le rétablir. Donc voilà, les débuts de la Bible sont très importants. Alors cet homme qui est athée, on est resté là pendant 3 heures, passé à discuter, et c'est un homme extrêmement intelligent, et il me dit, moi, je vois bien comment est Dieu, je vois bien la création, je vois bien la nature, Dieu doit être un bon père, qui dit. Il doit être sensationnel. J'aimerais bien le connaître, mais je ne le connais pas. C'était formidable, sa discussion. Il prend des gestes et tout ça. Et puis il dit, mais quand je regarde bien tout ce qui nous plante là dans notre civilisation, c'est notre intelligence. On a inventé les ordinateurs, les fusées, tout le bazar. On se croit tellement malin qu'on est en train de mettre tout en l'air, il dit. On est en train de saccager tout ce que notre père nous a donné. Alors, on a beau faire, on finit par se contredire tout le temps dans notre société, dans notre civilisation. Il dit, ça c'est l'intelligence, parce qu'on se croit trop intelligent. Il me dit ça, je le laisse dire, et puis, ben, Dieu a quand même donné une intelligence à tous les hommes. Moi je fais un peu le bêtard, je fais le taquin, hein. L'intelligence est bonne, il faut étudier, il faut aimer la science, la philosophie, la théologie, il faut aimer... La technique et tout. Tu mets tes enfants à l'école, c'est pour ça. Ah oui, mais c'est pas ça que j'ai dit. Ça, c'est former l'esprit, là. Il y a un très bon esprit dans l'école, là. Il y a un très bon esprit. C'est pour ça qu'on les a mis là. Même qu'on ne comprend pas tout, il y a un très bon esprit. Et tous ceux qui tournent alentour de l'école, ils ont un très bon esprit. On souhaite que nos enfants restent dans cet esprit-là. Mais alors, où est le problème? Mais c'est pas cet esprit-là qui dit. C'est... que les hommes croient qu'ils sont intelligents. Alors, je le laisse dire, je pense, je priais, je pense que d'autres priaient pour lui quand j'étais en réunion avec lui, il me dit, si j'étais à la place de Satan, je viendrais tout près de Dieu, et je viendrais gentiment lui dire, est-ce que je peux donner un peu plus d'intelligence aux hommes? Tu me le permets? C'est un athée, hein, qui me dit ça. Est-ce que je pourrais donner un peu plus d'intelligence aux hommes, tu me le permets? Dieu dit, essaye, tu verras bien. Lisez le livre de Job, vous verrez, c'est dedans, c'est expliqué. Alors, essaye, tu verras bien. Alors, il va tout près d'Ève, il va tout près d'Adam, et il dit, vous savez, il y a là-bas, vous savez cet arbre-là, il représente la sagesse, il représente la sagesse. Vous pouvez définir ce qui est bien, ce qui est mal vous-même. Il n'y a plus besoin de Dieu. Vous ne voulez pas essayer? Mais à force d'insister, Adam et Ève disent, ben oui, hein, on sera sages à nos propres yeux. On définira ce qui est bien, ce qui est mal à nous-mêmes. C'est vrai. Dieu nous avait dit qu'on ne pouvait pas y toucher, mais tout compte fait, tu as raison. Parce que Satan leur a dit, Dieu a-t-il bien dit que? Est-ce que c'est si important que ça que Dieu nous ait dit de ne pas chercher un supplément d'intelligence? Dieu ne voulait pas ce supplément d'intelligence qui donne l'orgueil et la vanité, qui donne la division, l'accusation, le meurtre et tout le reste, l'impureté. Il ne le voulait pas. Il voulait que simplement les cœurs soient vrais et humbles et infiniment intelligents. Vrais et humbles, comme Dieu. Parce que Dieu est un humble. Il n'y a pas plus humble que Dieu, parce qu'autrement il nous aurait déjà détruits. Il n'y a pas besoin de Dieu pour nous détruire. Nous sommes capables, nous l'humanité, de tout détruire. Et on va vers ça. Heureusement que Dieu a dit, je ferai des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Il est très humble. Il attend qu'on ait devant nous le résultat de notre folie, notre intelligence. Et il fera de nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais ce n'est pas lui qui détruit. Il n'y a pas de mal en Dieu. Aucunement. Pas un milligramme. Mais cette intelligence, ils ont dit, ben on va essayer. Alors, vous voyez, dans le chapitre 3, hein, voici ce que Satan dit. Vous ne mourrez pas, c'est-à-dire vous ne serez pas séparés de Dieu. Vous ne connaîtrez pas de limite. Il n'y aura pas de problème. Alors, chapitre 3, verset 5, Dieu sait que jour vous en mangerez, donc vous aurez cette intelligence en plus. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais c'est justement ce que Dieu ne voulait pas. Il voulait qu'ils ne connaissent que le bien, pas le mal. Pourquoi connaître le mal? Pourquoi connaître le mal pour être quelqu'un de bien? Quand des parents disent qu'il faut qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, ils font le bien et le mal, ils choisiront eux-mêmes. Mais vous savez, le mal, c'est comme un aimant, ça attire plus que le bien. Alors, la femme, et bien sûr le mari, hein, parce qu'il était copain avec, hein, il était uni avec, hein, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, l'expérience de définir le bien et le mal soi-même, c'est mieux quand même. On se sent quelqu'un, on s'émancipe de Dieu, on devient autonome. Enfin, on va prendre notre indépendance. On va être quelqu'un sans lui. J'ai fait intimement cette expérience. Ignare que j'ai été. Je l'ai fait intimement plusieurs fois dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'après, vous avez tout de suite quelque chose. Au verset 7, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont perdu la notion du bien. Ils ont perdu l'amour du bien. Ils ont perdu l'amour de la perfection. Ça y est, ils sont dans la confiture. Ils sont dans la glu. Ils sont embourbés. Ils ont perdu la communion avec le bien. Ils ont perdu la paix. Ils sont nus. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils se cachent. Il se cache de Dieu. Culpabilité. Culpabilité. Peur de Dieu. Mais Dieu ne cherche pas à ce qu'ils aient peur de lui. C'est eux qui ont créé leur source de la peur envers Dieu. La religion crée la peur et l'angoisse. Mais Dieu ne crée pas la peur et l'angoisse. C'est notre nature qui a été diminuée par notre esprit d'intelligence, de super-intelligence, dévoyé, qui nous a donné comme fruit l'angoisse, l'inquiétude, l'idée de la transgression. Mais Dieu, lui, nous aime toujours. Il est fidèle et bon. David le dit, les fondements de la terre, de l'univers, sont bonté et fidélité de l'Éternel. Alors, ils vont être dans l'angoisse, et puis après, ils se cachent. Quand Dieu les visite, ils disent au verset 10, j'ai eu peur. La crainte de Dieu, la peur de Dieu, ça y est. Ben, je vais faire des pèlerinages. Hein. Je vais aller à Fatima, je vais marcher sur les genoux, je vais me faire saigner les genoux pendant 3 km. Ou je vais aller à Lourdes mettre des bougies, ou à Dozolier, mettre des gorgées. Ou puis je vais aller faire les moulins à prière, hein, dans les lamasseries. Bon, tout le reste. Je vais aller offrir des encens et des fleurs devant la statue de Bouddha. C'est quoi ? Pour résoudre une peur qui ne sera jamais résolue. Parce qu'il faut retrouver la relation avec Dieu pour ne plus avoir peur. La religion ne comblera jamais le drame de la conscience. Et ce qu'il y a, après cette notion d'avoir perdu l'amour du bien et de se sentir dépouillé de quelque chose qu'ils avaient intimement, de vrai, de profond, la peur, la crainte de Dieu, l'isolement, et ensuite... L'homme accuse la femme, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme accuse, c'est le serpent que tu as créé. On se divise, on s'accuse. C'est pas moi, c'est l'autre. Regardez bien dans tous les couples. Moi, je visite des couples. Hein. Il faut que je sois patient. Hein. Bon, j'écoute, j'observe. Et puis après, je prie, je rentre. Je prends un texte, et puis j'y retourne. Bon, Ça a l'air d'être ça. Puis je me suis trompé. J'ai remis deux, trois fois, quatre fois. Tout d'un coup, pan, la quatrième fois. Ah, ouf. Je les vois qui sourient, qui sont en paix, qui prennent le texte, qui se disent ah, je peux prier avec eux. Et il y a quelque chose, un abcès qui a été percé. Hop, tout le puits est parti. Maintenant, à eux la responsabilité de ne pas s'infecter à nouveau. Mais ce qu'il y a, la parole de Dieu, pour moi, guérit les cœurs, guérit les âmes, guérit les couples, guérit tout le monde, les torturés. Vous voyez ici qu'ils se sont divisés, se sont accusés, et pire que ça, au chapitre 4, il y a deux fils, il y en a un qui est jaloux sur l'autre et il tue le frère. Chapitre 4, verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta à son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Mes amis, notre civilisation, c'est ça. Hein, moi, j'ai envie d'avoir une belle grosse bagnole, ou des bagnoles, une belle voiture, une belle civilisation, des belles vacances. Peu importe que dans le reste du monde, ils meurent, on va produire beaucoup d'armes, ils vont les acheter, ils vont se battre entre eux. On achètera tous les produits, les matières premières, à quatre fois rien du tout, au plus bas prix. Ils vont tirer une langue comme ça, ils vont souffrir, leurs gosses vont se traîner, ils vont travailler. Leurs enfants vont travailler comme des chiens et des chats avec eux. Mais nous ici, on aura nos belles vacances. J'aurai mon t-shirt pour pas grand-chose. Je travaillerai le moins possible et j'aurai le plus possible. Ça, c'est qu'un. Suis-je le gardien de mon frère? Notre société humaine est construite comme ça. Suis-je le gardien de tous les autres sur la terre? Mais non. Mais non. Pas du tout. Il y a 800 millions de gens, 800 millions d'hommes et de femmes qui profitent de 8 milliards, de 7 milliards au moins. Suis-je le gardien de mon frère? Moi, en tant que chrétien, je ne supporte pas ça. Vivement que Dieu vienne rétablir la justice, un rapport équitable. Mais vous voyez la connaissance du bien et du mal. Pour finir, ce qui a été, hein, avec cette mise en doute de la parole de Dieu, eh bien, de déraper, je veux faire l'expérience du bien et du mal. Mais c'est le mal qui a gangréné. Prenez 10 pommes dans un panier, vous en avez une qui est pourrie, laissez. La pomme pourrie va faire pourrir une autre. Prenez une pomme qui a des petits vers, mettez-la avec 20 autres pommes, revenez deux semaines après, il y a des vers dans toutes les pommes. Le mal semble gagner. Sauf en Christ. Sauf en Christ. Le Christ est sans péché, Jésus est sans péché, Satan vient de tenter, chaque fois il laisse causer, même le Satan prend la Bible. Hein. Il est futé, il prend des versets de la Bible. Et Jésus reste fidèle. Quel est le maître de notre vie? Le seul qui soit resté dans le bien et qui n'ait pas voulu faire l'expérience du bien et du mal. Le seul qui a été intègre et droit. Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Il n'a pas pris le chemin d'Adam et Ève. C'est donc la petite porte, la sortie de secours. Il y a le feu dans le bateau. Il y a une barque. Vite à la barque. Vite aux barques. Oh non, non, moi je n'ai pas de débarque quand je reste dans le bateau. À nous de choisir. À nous de choisir. Jésus est la petite porte et le petit chemin. Jésus a tout pour nous conduire à la situation d'avant le péché d'Adam et Ève. Il a tout pour nous faire de nous être animal qui vivons avec des pulsions de bien et de mal, pour être habité du Saint-Esprit et être conduit par l'Esprit du bien, l'Esprit de Dieu, qui est sans un gramme de mal. C'est pour ça que ce père de famille, quand il dit « J'aime bien cette école, moi, je ne suis pas croyant, mais j'aime bien cet esprit-là. » Et puis, j'ai réfléchi, j'ai vu que tous ceux qui gravitent alentour de l'école, ils ont le même esprit. Je me dis bah, « Si mes enfants restent amis avec ceux-là, ils seront mieux qu'autre part, parce qu'autre part, ils sont tous fous. » Cet homme-là, qui parle comme ça si simplement, qui a été à l'université, qui a fait des tas d'études, et qui travaille, qui fait un métier manuel. Pourquoi il fait un travail manuel? Ben, tout ce qu'on lui avait appris, c'était pour gagner du fric et mener les autres par le bout du nez. Il y a renoncé. Son professeur d'université lui a dit, tu coules pas à tout ce qu'on t'annonce. Pourtant, t'es un bon élève. Alors, si cet homme-là souhaite cet esprit-là pour ses enfants, sans savoir, il souhaite l'esprit de Christ. Si cet homme-là cherche que ses enfants aient des relations encore avec des autres qui ont le même esprit, c'est qu'il cherche l'esprit de Christ sans savoir. Donc, désormais, il est déjà sur le chemin. Il va un jour connaître Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que celui qui fait la vérité en lui vient à la lumière. Celui qui fait la vérité en lui fait la lumière. Et lui, c'était son cas. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont comme ça. Je vous le dis. Depuis le coronavirus, ça secoue. Hein? S'il y a encore un autre truc comme ça, où les gens s'endurcissent, mais vraiment comme Caïn, ils s'endurcissent. Suis-je le gardien de mon frère? Chacun pour soi, vas-y, né. Hein? Ou alors, je recherche autre chose. Il est temps que je m'y mette. Eh bien, je vais vous dire, hein? Il faut dire merci à Dieu. Beaucoup se tournent pour le moment. Moi, je vois sur les messages sur Internet, beaucoup se tournent. Même des gens qui m'ont insulté, qui m'ont envoyé des lettres d'insultes, qui m'ont refusé, ils écoutent. Pourquoi? J'ai jamais jeté une pierre dans leur jardin. Je ne me suis jamais vengé. Je n'ai pas voulu du mal à ces personnes. S'ils vont vers Christ, tant mieux. Ce n'est pas vers moi qu'il faut aller. C'est vers Christ. C'est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, les premières pages de la Bible éclairent toute la Bible. Il faut bien comprendre le départ de la Bible. Parce qu'autrement, tout le reste de la Bible, on va le lire. Oh ben, ils sont en train de se tuer, ils sont en train de se battre. Puis ça. On va se perdre dans les détails, on n'aura jamais rien compris l'essentiel. Prions.